Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 29 mai 2014. Il est 6h temps universel. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
Des morts, dont un prêtre, dans une attaque contre une église hier à Bangui.
Brazzaville s'insurge contre les critiques de l'ONU concernant l'expulsion de dizaines de milliers de ressortissants de la RDC.
L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté la loi sur la réforme de la commission électorale en prélude à la réforme à la présidentielle de 2015.
En Égypte, les résultats préliminaires de la présidentielle donnent 93% à Abdel Fattah al-Sissi.
L'isolationnisme n'est pas une option, mais tous les problèmes ne nécessitent pas une solution militaire, déclare le président Barack Obama.
Des discussions sur l'Ukraine entre Vladimir Poutine et François Hollande la semaine prochaine à Paris.
Enfin, décès de Maya Angelou, une grande dame de la littérature américaine.
Et nous terminerons cette édition avec la musique de Roger Montou et les sports. Pour l'instant, le journal. En République centrafricaine, des rebelles musulmans ont tué au moins 11 personnes lors d'une attaque contre une église de la capitale, Notre-Dame de Fatima, où auraient cherché refuge des milliers de déplacés. Selon des témoins, l'attaque d'hier aurait fait une trentaine de morts à Bangui.
Les hommes armés, disent les mêmes témoins, ont jeté des grenades et ouvert le feu sur l'église. Quelques heures plus tôt, un accrochage avait eu lieu entre miliciens chrétiens anti-Balaka et habitants du quartier musulman de PK5, précise-t-il. C'est la pire attaque imputée à des musulmans depuis la démission de l'ex-président Séléka, Michel Djotodia, en janvier. Un prêtre âgé de 76 ans, le père Paul-Émile Nzalé, a été tué au cours des violences d'hier, a annoncé à l'AFP l'archevêque Dieudonné Nzapalainga.
On ne peut être que triste devant ces morts. Depuis quelques jours, il y a des affrontements dans ce quartier, a-t-il encore dit à l'AFP. Un nombre important de déplacés qui avaient trouvé refuge sur place ont fui le quartier. Les autorités de Brazzaville se sont indignées hier de l'ONU qui avait dénoncé la façon dont elles ont expulsé des dizaines de milliers de ressortissants de la République démocratique du Congo. Lionel Gahima.
La République du Congo est surprise par ces déclarations grossières, a déclaré le ministre de la Communication, Bienvenue Okiemi, qui répond ainsi aux critiques de Martin Kobler, chef de la mission de l'ONU en RDC. Le ministre a ajouté, et je cite, « Monsieur Kobler, qui n'est ni coordonnateur des institutions de l'ONU, ni proconsul au Congo, aurait été inspiré de vérifier ces allégations auprès de ses collègues accrédités à Brazzaville. » Ce lundi, la MONUSCO avait exigé que les autorités de Brazzaville cessent immédiatement les expulsions des ressortissants de la RDC qui, selon Martin Kobler, seraient accompagnés de violences physiques, mauvais traitements et violences sexuelles. Le 4 avril, Brazzaville a lancé une grande opération policière, selon la version officielle, c'est pour combattre la montée du banditisme imputé aux étrangers. La MONUSCO a avancé le chiffre de 130 000 personnes expulsées vers Kinshasa, de l'autre côté du grand fleuve Congo.
Les députés ivoiriens ont adopté hier la loi sur la réforme de la commission électorale indépendante chargée de la présidentielle de 2015. Le Front populaire ivoirien, qui ne siège pas à l'Assemblée, avait déjà rejeté le texte. Félix Yepassis Zembrou.
La loi modifiant la commission électorale est passée comme une lettre à la poste. Le RDR, parti du président Alassane Ouattara et ses alliés, ont la quasi-totalité des sièges à l'hémicycle. La nouvelle CEI est composée de 17 membres, dont 4 de l'administration, 4 de la société civile, 4 des partis politiques au pouvoir, 4 de l'opposition et elle sera présidée par un représentant du chef de l'État. C'est l'organe qui va se charger de la présidentielle d'octobre 2015. Alassane Ouattara a confirmé qu'il va briguer un nouveau mandat. Cette réforme de la CEI est déjà rejetée par l'opposition. Le Front populaire ivoirien, ancien parti au pouvoir, n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, mais critique la présence d'institutions rattachées au gouvernement et à la présidence au sein d'une commission électorale indépendante. Pour rappel, les violences post-électorales en 2010-2011 avaient fait plus de 3 000 morts.
En Égypte, les résultats préliminaires de la présidentielle donnent 93% des voix à Abdel Fattah el-Sissi, l'ancien chef militaire du pays. Son seul rival, le politicien de gauche Hamdine Sabahi, aurait eu 3%. La participation électorale n'a été que de 44%, bien qu'on ait donné un jour de plus aux électeurs pour booster ce taux. Les résultats officiels sont attendus la semaine prochaine.
Les frères musulmans avaient appelé au boycott du scrutin, accusant Sissi et ses alliés de fraude et de trucage. Une présidence Sissi, soutient-il, ne serait qu'une continuation du coup d'État militaire de l'année dernière contre le président islamiste Mohamed Morsi. Ce dernier et un certain nombre des frères musulmans sont jugés pour la mort de protestataires antigouvernementaux. Pour Abdel Fattah al-Sissi, les frères musulmans n'ont aucun avenir en Égypte.
En Libye, alors que règne la confusion, un général dissident a lancé hier une nouvelle attaque contre les groupes extrémistes et Washington a demandé à tous les Américains de quitter immédiatement ce pays. Issa Napon.
Les troupes du général Khalifa Haftar ont lancé des raids aériens à Benghazi contre la brigade des martyrs du 17 février. Il avait lancé il y a 3 semaines une offensive contre les islamistes. Mohamed al-Zahawi, leader du groupe djihadiste Ansar al-Sharia, promet des représailles contre le général. Il a aussi mis en garde les États-Unis, accusés de le soutenir. Au plan politique, c'est la confusion à Tripoli. Le nouveau Premier ministre Ahmed Mittig, qui a été investi dimanche par le Parlement, a échappé à une tentative d'assassinat mardi. Son prédécesseur Abdallah Al-Thani traîne des pieds pour passer le pouvoir. Washington a demandé aux ressortissants américains de quitter immédiatement la Libye. Selon l'AFP, les États-Unis ont déployé un navire d'assaut au large des côtes libyennes pour parer à toute éventualité.
À présent, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Ce mardi, les autorités sierra-léonaises ont annoncé un deuxième décès provoqué par ce virus hautement contagieux. 6 autres cas suspects sont encore sous traitement, a déclaré à l'AFP un responsable du ministère, le docteur Brima Kargbo. Le virus était apparu en Guinée voisine. Là-bas, la situation s'est stabilisée, mais l'épidémie est loin d'être enrayée. Pour faire le point, Bagassi Koura a joint à Genève Tariq Diassarevic, porte-parole de l'OMS.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, le président Barack Obama a fait savoir que l'isolationnisme n'est pas une option pour les États-Unis, mais que tous les problèmes ne nécessitent pas une solution militaire. C'est la ligne directrice que le chef de l'exécutif américain souhaite donner à sa politique étrangère pour ses dernières années au pouvoir. Il s'adressait hier à la promotion sortante de la prestigieuse Académie militaire de West Point.
Pour M. Obama, le terrorisme reste la menace la plus directe pour la sécurité américaine et il a appelé à un partenariat avec les pays où les réseaux terroristes cherchent un point d'ancrage. Il a souligné que les États-Unis ne transigeront jamais lorsqu'il s'agit de protéger le pays et le peuple américain, mais lorsque des questions d'intérêt mondial sont en jeu et qu'ils ne constituent pas une menace directe pour les États-Unis, l'option militaire doit demeurer en dernière ligne.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se félicite de l'élection de Petro Poroshenko à la présidence de l'Ukraine et exhorte toutes les parties en présence à cesser les hostilités pour entamer un dialogue. Pour le représentant permanent ukrainien, le soutien au nouveau président à travers l'Ukraine confirme le désir profond d'unité nationale de son peuple. Yuri Sergeyev a exhorté la Russie à cesser de s'ingérer dans les affaires de son pays.
Son homologue russe, Vitali Tchourkine, a rétorqué que l'élection n'est pas une panacée, même si le Kremlin a promis d'en respecter les résultats. Dans une interview à notre confrère allemand Bild, M. Poroshenko a dit qu'il essaiera d'avoir des pourparlers directs avec le président russe Vladimir Poutine quand ils assisteront la semaine prochaine en France aux cérémonies de commémoration du débarquement allié en Normandie le 6 juin. M. Poutine sera en effet à Paris la semaine prochaine et en marge de ces cérémonies, des discussions sur la situation en Ukraine sont prévues avec François Hollande, le président français. C'est la première rencontre du leader russe avec un dirigeant occidental depuis le début de la crise ukrainienne. Jean-Roger Bion.
L'agenda du leader russe en France ne mentionne pas de rencontre avec le président américain Barack Obama, le premier ministre britannique David Cameron ou encore la chancelière allemande Angela Merkel. Et pourtant, tous seront au même moment dans l'Hexagone. Sur le terrain, la Russie a appelé à l'arrêt immédiat des opérations militaires ukrainiennes dans l'est du pays et à l'amorce d'un dialogue pacifique. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est inquiété mardi de la poursuite des violences et a exhorté le gouvernement de Kiev à utiliser des moyens exclusivement pacifiques pour reprendre le contrôle de l'est du pays. Les combats entre les insurgés pro-russes et forces ukrainiennes ont fait jusqu'à 50 morts, dont une majorité de séparatistes.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson, Washington, La Voix de l'Amérique. À Gao, ville natale de l'ex-ministre malien de la Défense, avis partagé sur la démission de Soumeilou Boubey Maïga. Il a résigné ses fonctions après la débâcle de l'armée malienne à Kidal face au groupe armé mercredi dernier avec quelques 50 soldats tués, une quarantaine de blessés et des dizaines de prisonniers. Les réactions à Gao avec notre correspondant sur place, Boubacar Touré.
La démission de Soumeilou Boubey Maïga, ministre de la Défense, nourrit les débats dans la ville de Saskia. Les avis restent partagés.
Abdourahmane Begaziré, je pense que la démission ou la mise en départ du ministre chargé de la Défense et des anciens combattants est tout simplement le résultat d'un certain nombre de dysfonctionnements que tout Malien a pu constater de façon amère depuis plusieurs jours. L'armée souffre de beaucoup de maux et que des responsables doivent être désignés et sanctionnés à la mesure de la faute commise.
C'est Ali Bourama Maïga. Moi, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans parce que hier seulement, nous avons vu qu'il y a eu une situation très grave à Kidal et qu'encore, on n'arrive pas à situer les responsabilités. Aujourd'hui, si Soumeilou présente sa démission, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Peut-être qu'il a vu que la situation à laquelle il fait face, il n'arrive pas à gérer cette situation. C'est pourquoi il a présenté sa démission.
Pour les autres, celui qui a pu gérer le capitaine général Amadou Aya Sonogo et ses compagnons avec professionnalisme sans un coup de feu ne mérite pas ce sort.
Mon nom c'est Mohamed Adama. Cette démission je ne l'ai pas appréciée parce que je pense que la démission est venue à la hâte. Nous on voit qu'il maîtrise la place hein. Et c'est quelqu'un qui a vraiment il connaît le Mali, il joue son rôle, il est partout. Donc le changement qu'ils sont en train de faire immédiatement comme ça, ça ne va jamais faire avancer le Mali. Voilà, surtout qu'il a géré le dossier de Sanogo dans le clando et dans le discret. Il a géré ça avec responsabilité et mesure.
Mohamed Maïga, si quelqu'un est soucié de régler le problème du Nord, ça doit être Soumeilou. Parce qu'il est natif de Gao. Donc il a été éjecté tout simplement. Kidal, tout le monde sait, le Premier ministre après directement sa visite, il dit que le pays est en guerre. Je ne peux pas comprendre qu'on se rabat aujourd'hui sur Soumeilou, la personne de Soumeilou. Si Soumeilou doit partir, c'est tout le gouvernement qui doit suivre. Ainsi que Sada Samake, sécurité intérieure. Ce gouvernement nous a dit que ce pays est en guerre. Et ils disent aujourd'hui que la faute incombe à l'armée. On ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas du tout.
Pour ceux qui sont plus prudents dans cette affaire, il faut attendre de voir clair pour se prononcer.
Yaya Oumarou. Soumeilou Boubey était à Kidal, le chef d'état-major était à Kidal, après lui le chef d'état-major est resté à Kidal. Donc moi je pense que la coordination devait être bonne. Peut-être il y a une action dans l'ombre qui a porté le coup fatal à ce qui est arrivé à M. Soumeilou Boubey. Maintenant, si j'ai dit Soumeilou Boubey, je sais qu'il ne va pas se taire. Nous nous souhaitons que, c'est-à-dire qu'il réagisse. Le citoyen malien a besoin de savoir.
Kao, Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En Guinée, Facebook est le réseau social le plus utilisé. Chaque utilisateur y trouve son compte. Qui pour trouver un mari, qui pour trouver une femme, d'autres pour garder le contact avec les amis et les parents, parfois loin du pays. Grâce à l'Internet offert par les sociétés de téléphonie mobile, les férus passent l'essentiel de leur temps sur les claviers de leurs appareils, nous dit dans ce reportage notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Selon les chiffres d'un cybercafé de la capitale, 8 clients sur 10 se connectent sur Facebook. Et quand on leur demande, ils donnent tous ou presque la même réponse.
C'est juste pour rencontrer des amis que je connais.
Ça me permet de rester en contact avec ma famille qui est loin de moi.
Ça me permet de communiquer avec mes amis d'ailleurs qui vivent à l'étranger, mes amis d'ici, de l'intérieur. Donc voilà, ça me permet de communiquer, de faire partager mes images, mes clips comme je suis dans l'artistique et puis voilà.
Le succès de Facebook en Guinée a été possible grâce aux services services Internet offerts par les sociétés de téléphonie mobile. Partout, les utilisateurs de téléphone mobile peuvent se connecter, mais seulement Facebook avait amené quelques pratiques indécentes.
Les gens prennent Facebook pour faire comme un truc qui n'est pas bon. Actuellement, il y a des gens qui publient les choses qui n'est pas bon, les photos pornographiques, là, tout. Donc, dans ce cas, je n'aime pas Facebook.
Il y a certains qui partent sur Facebook pour chercher des garçons.
C'est quelque chose qui te pousse quand même à des fois à rester le plus longtemps, des fois devant l'ordinateur, alors qu'un enfant a besoin parfois de sommeil. Parfois aussi, certaines choses qui peuvent se passer là, tu peux rencontrer des mauvaises personnes.
Des mauvaises personnes ou des escrocs dont on démasque souvent les méthodes.
Parfois, on rencontre des escrocs, des arnaqueurs qui disent qu'ils ont ça, ils ont ça. De virer telle somme dans leur compte, ils vont m'aider à avoir quelques matériels par exemple. J'avais rencontré une fille, elle m'a fait une proposition et finalement, quand j'ai dit arnaqueur, et finalement, elle m'a supprimé de la liste de ses amis, quoi.
D'autres Guinéens préfèrent faire des affaires sur la plateforme.
Je suis un designer, je fais souvent la publicité de mes produits sur Facebook et à travers ça, j'ai assez de clients. À travers mes designs, je publie ça sur Facebook. Il y a des clients aussi, ça l'intéresse et puis ils me contactent et puis on fait l'affaire, quoi.
Facebook est un succès phénoménal à Conakry. Dans certains couples, les conjoints se parlent peu à la maison parce que tous continuellement connectés. Et puis, il n'est pas rare de lire dans les commentaires « j'aime » alors que le message parle d'un décès. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Au micro Robert Daguillard. Cette semaine, Washington Forum, l'émission débat de la VOA, est consacrée au traumatisme psychologique. Causes, symptômes, traitements. Comment les personnes atteintes de traumatisme vivent-elles leurs conditions dans vos pays respectifs? Quel rôle jouent les conflits, les catastrophes naturelles ou tout bonnement les conditions de vie difficiles? Écrivez-nous et témoignez. Washington Forum, comme toujours, c'est jeudi à 19h TU sur La Voix de l'Amérique.
Le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme a fermement condamné le meurtre d'une Pakistanaise enceinte de 25 ans, lapidée à mort par sa propre famille à Lahore. Navi Pillai appelle la justice pakistanaise à poursuivre et condamner les coupables d'une lourde peine. Selon la police, Farzana Parvin a été assassinée mardi en plein jour devant une foule de badauds par une vingtaine de membres de sa famille, y compris son père et ses deux frères. Nathalie Barge a joint à Genève Cécile Pouilly, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Nous sommes vraiment profondément choqués par cet assassinat brutal. Cette jeune femme de 25 ans était enceinte de 3 mois. Il s'agit véritablement d'un meurtre prémédité puisque les membres de sa famille l'attendaient alors qu'elle se rendait auprès de la cour pour faire valoir son droit de voir son mariage validé et pour pouvoir contester ce que son père disait, à savoir qu'elle avait été kidnappée par son mari. Et sur le chemin du tribunal, donc elle est tombée dans un véritable guet-apens puisque plus d'une vingtaine des membres de sa famille l'ont attaquée à coups de briques, à coups de pierres. Elle est morte sous leurs coups, manifestement dans des souffrances atroces. Malheureusement, au Pakistan, chaque année, des centaines de femmes meurent pour n'avoir commis d'ailleurs aucun crime, pour avoir simplement refusé un mariage arrangé ou avoir épousé la personne qu'elles aiment ou qu'elles ont choisie.
Est-ce qu'il a été blessé, son mari? Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Parce qu'il était avec elle.
Ce que nous savons en effet, c'est qu'ils étaient tous les deux en chemin en direction du tribunal. Elle est morte sous les coups. Il a été également attaqué, mais nous n'avons pas d'informations sur sa situation actuelle. Par contre, nous savons qu'il a pu approcher la police pour porter plainte et que la police a arrêté le père de la victime.
Cela s'est passé en plein jour puisqu'il se rendait au tribunal.
Oui, absolument. Et d'après les informations que nous avons reçues, il y avait même des policiers à proximité du lieu tragique de cet incident. Donc, c'était en plein jour, en effet, que ce meurtre a été commis.
Les policiers ne sont pas intervenus ?
Manifestement pas. Elle est morte sous les coups de briques et de pierres jetés par sa famille, dont son père et ses frères.
C'est d'autant plus choquant que Lahore, c'est la deuxième plus grande ville du Pakistan. C'est un centre culturel, c'est connu pour ses festivals. Est-ce que ça s'est déjà produit dans la capitale même du Punjab ?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que en 2013, d'après la Commission des droits de l'homme au Pakistan, plus de 869 femmes sont mortes, soi-disant pour des raisons d'honneur. Je dis soi-disant parce qu'évidemment, on ne peut pas parler d'honneur quand il s'agit de massacrer une femme. Malheureusement, il s'agit d'un problème culturel profond où les familles, lorsqu'elles sont contre le choix de leur fille, qui décide leur époux de leur choix, eh bien, certains ont recours à ces violences.
C'était de Genève, Cécile Pouilly, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme.
Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide.
Maya Angelou, une grande dame de la littérature américaine qui s'en est allée. Poète, écrivain et dramaturge, elle s'est éteinte hier à son domicile en Caroline du Nord, Nathalie Barge.
Née en 1928 à Saint-Louis dans le Missouri, Maya Angelou a passé la majeure partie de son enfance avec sa grand-mère dans l'Arkansas. Pour les Noirs dans le sud des États-Unis, c'était des années de ségrégation raciale et de pauvreté. Ce qui rendait sa vie supportable, selon elle, c'était les histoires, les chansons et la sagesse populaire transmise d'une génération à l'autre. En somme, l'art de la vie.
The church I belonged to was even smaller.
L'église à laquelle j'appartenais était encore plus petite que toute aspiration dans la ville. Lorsque tous les membres étaient là, nous étions 32 personnes en tout. Et pourtant, dans cette église, j'ai appris tant de choses sur le pouvoir de l'art pour aider les êtres humains à transcender presque tout.
Sa carrière littéraire a commencé lorsque l'écrivain James Baldwin et d'autres amis l'ont invité à écrire ses histoires d'enfance. En 1969, elle publie le premier volume de son autobiographie intitulée « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage ». D'autres biographies ont suivi, ainsi que des essais, poésies, pièces de théâtre et scénarios. Ses écrits ont inspiré les étudiants et les présidents. Elle a été invitée à lire un poème à l'investiture du président Bill Clinton en 1993.
« On the path of this new day.
Aujourd'hui, en cette nouvelle journée, vous pouvez gracieusement regarder devant et dans les yeux de votre sœur et dans le visage de votre frère, votre pays, et dire simplement, très simplement, avec espoir, bonjour.
En 1994, Nelson Mandela a lu le poème de Maya Angelou, Still I Rise, lors de son investiture en tant que président de l'Afrique du Sud. Bien qu'elle n'ait jamais été à l'université, Maya Angelou a reçu plus de 30 doctorats honorifiques, la médaille nationale des arts et la médaille présidentielle de la liberté. En annonçant sa mort à 86 ans, l'université Wake Forest, où elle a enseigné pendant 30 ans, l'a cité comme un trésor national dont la vie et les enseignements ont inspiré des millions de personnes dans le monde.
Sounds like pearls roll off your tongue to grace this eager ebon ear. Doubt and fear, ungainly things, with blushings disappear.
Et maintenant, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Les banques américaines Goldman Sachs et italiennes UniCredit pensent que c'est le Brésil qui va remporter la Coupe du Monde.
Les banques américaines Goldman Sachs et italiennes UniCredit, davantage connues pour leurs analyses financières que sportives, pronostiquent une victoire du Brésil à la Coupe du Monde grâce à des modèles statistiques sophistiqués. Le modèle prévoit que le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine et l'Espagne atteignent les demi-finales et le Brésil battra l'Argentine en finale, a prévu Goldman Sachs. Dans son rapport publié hier pour UniCredit aussi, l'Amérique du Sud sera en force dans le dernier carré puisque trois des quatre demi-finalistes seront latino-américains, a estimé UniCredit, plaçant l'Uruguay à la place de l'Espagne dans son étude également dévoilée hier mercredi.
Le propriétaire de Manchester United est décédé.
Oui, Malcolm Glazer est décédé hier mercredi à l'âge de 85 ans. Il était également propriétaire de l'équipe de football américain les Tampa Bay Buccaneers. Glazer avait pris le contrôle des Buccaneers en 1995. Équipe qui l'a conduite au titre suprême, le Super Bowl en 2002. Mais c'est surtout avec le rachat en 2005 de Manchester United en Angleterre que Glazer s'est fait connaître dans le monde entier. Depuis que la famille Glazer a pris le contrôle de Man U, Le club du nord de l'Angleterre a remporté 5 titres de champion d'Angleterre et la Ligue des champions en 2008.
Tennis, le tournoi de Roland-Garros à Paris.
Oui, l'américaine Serena Williams, numéro 1 mondial et tenante du titre, a été éliminée dès le deuxième tour mercredi lors de l'une des défaites les plus humiliantes de sa carrière. C'est une gamine effrontée de 20 ans, l'espagnol Garbin Muguruza, 35e mondial, promise à un grand avenir, qui a battu le mythe Williams sur un score assez invraisemblable, 6-2, 6-2. Et Idrissa, pour terminer, la NBA suite des finales régionales.
Les Pacers d'Indiana ont réussi à éviter leur élimination de la finale de la Conférence Est en battant hier soir les Heat de Miami 93-90. Miami mène la série par 3-2. À présent, Roger Muntou et sa musique. Bonjour Roger.
Salut Idrissa, Pharrell Williams, commissaire d'expo, c'est l'idée folle qu'il a eue avec le galériste français d'art contemporain Emmanuel Perrotin. L'exposition Girl qui a ouvert ses portes il y a de cela deux jours à la galerie Perrotin à Paris. Une foule de journalistes était présente pour visiter l'exposition et écouter Pharrell présent pour l'occasion. Il doit être très content ou happy, comme le dit la chanson.
L'exposition Girl de Pharrell Williams a 49 œuvres qui s'articulent autour de la place de la femme, du corps de la femme. Il y a peinture, sculpture, vidéo et photographie.
Oui, Idrissa, il y en a pour tous les goûts, ça c'est sûr et certain. Mais la question sur les réseaux sociaux, Pharrell, féministe, pas vraiment d'après ce qu'il dit sur Twitter. Je ne sais pas si je peux prétendre être féministe, tout simplement parce que je suis un homme. Par contre, je peux dire que j'aime les femmes de A à Z, a-t-il déclaré.
C'était Pharrell Williams dans Happy. Merci Roger.
De rien Idrissa, un clin d'œil à notre fidèle auditeur Eglo Makassi à Goma.
Retrouvez Roger Muntou dans le RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.